Anniversaire, le premier anniversaire le plus ancien est celui de la revue Fiction, qui est née en France en 1953, donc vous voyez, ça fait 60 ans.
Bientôt.
Et bientôt, oui, parce que c'était en octobre, quelle pinaille. Le deuxième anniversaire, il va dire bientôt aussi, ou avant, étant celui de la maison d'édition des Moutons Électriques, qui est née il y a presque, c'est ça, presque 10 ans.
En octobre aussi.
En octobre, et qui, par une extraordinaire coïncidence, a redonné vie à la revue Fiction. Vous voyez que tout se tient d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de passer la parole à Dominique Warfa, qui est un compagnon de route de Fiction, je dirais, un peu sentimental, c'est peut-être là-dessus
Qui représente la vieille génération.
Et qui représente une génération qui n'est pas beaucoup plus vieille que la nôtre, mais qui ne sait pas se servir d'un micro. Si, maintenant. Si, si, maintenant. Après, nous donnerons la parole à Pierre Stoltz, qui va nous dire je ne sais quoi, c'est une surprise. C'est une surprise qu'il nous réserve. Et enfin, pour finir, je donnerai la parole à André-François Ruault, qui est le cofondateur et l'animateur et le directeur et le président des Moutons Électriques, qui nous parlera donc des Moutons Électriques, de Fiction, nouvelle mouture, nouvelle version, et de l'avenir de toutes ces entités. Merci de votre attention. Dominique, c'est à toi. Et je te donne même. Tu veux ce micro-là ou tu veux?
Non, non,
si je dors.
Merci, Georges. Alors bon. Donc si je suis là, c'est parce que la plupart des membres fondateurs de la Fiction n'y sont plus. En gros. Si, il en reste. Gérard Klein.
Gérard Klein. Hein? Oui, il doit rester Gérard Klein.
Voilà. J'ai commencé à lire Fiction en 1971, à peu près. Daniel Riche a pris une de mes nouvelles pour la publier dans Fiction en 1977, je pense. J'ai rejoint l'équipe critique dans les années 80, mais je ne sais plus exactement quelle année, jusque avec l'une ou l'autre éclipse, plus ou moins jusqu'à la fin de la première vie de la revue Fiction. Voilà. C'est un résumé. Bon. Si vous voulez en savoir plus, vous posez des questions.
Le public rassuré.
Ah
ouais.
Non, tu peux détailler quelque peu.
C'était distribué en Belgique, tiens d'ailleurs, Fiction.
Eh bien, voilà, c'est une excellente question. Alors, en 1971, j'étais encore quand même un collégien qui finissait ses études secondaires. Je précise, parce que comme je suis belge, je n'ai pas toujours le même vocabulaire que vous. Et je cherchais désespérément des sources littéraires qui correspondent à ce que j'avais commencé à trouver dans les publications de la maison vénérable et verviétoise Marabout. Et entre autres, grand flash à l'époque, mais il faut dire qu'il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous le dent. L'anthologie du Bergin et les 20 meilleurs récits de science-fiction, c'est ça ?
Chef-d'œuvre absolu.
Chef-d'œuvre absolu. Anthologie belge aussi, d'ailleurs. J'ai appris beaucoup plus tard que la version Marabout, c'était quand même déjà une réédition. Il y avait une édition Robert Laffont.
Ah oui.
Et je ne suis même pas sûr qu'il y avait même de nouvelles dedans. Enfin, ça n'a pas d'importance. Il y a sans doute eu ça aussi, mais il y a eu une édition Laffont, ça j'en suis sûr. Si, si.
À quelle heure ?
À quelle heure, quel jour, quel mois, quelle année, etc. Enfin bref, peu importe. Par après, j'ai découvert que sur les textes de Join, il y en avait à peu près, je ne sais pas moi, 7 ou 8 dixièmes qui avaient d'abord été publiés dans Fiction. Ce qui est intéressant, puisque c'était grosso modo la source que je cherchais à ce moment-là. Au niveau collection, roman, il n'y avait pas ou il n'y avait plus grand-chose. Moi, j'étais étudiant un peu désargenté, je ne m'offrais donc pas le dernier Ailleurs et Demain, qui, de toute façon, fort récent à l'époque. Et puis, oui, Fiction et Galaxie étaient distribués correctement, assez correctement, en Belgique et à Liège en particulier, c'est-à-dire que en cherchant bien au fond de la principale librairie de la ville, on en trouvait un ou deux exemplaires, et que donc c'est devenu une de mes activités préférées, au moment clé du mois où à peu près j'étais sûr que ça allait arriver, j'écartais quelques Writer's Digest pour trouver Fiction Galaxy. Je dois la vérité préciser, d'ailleurs, que j'ai commencé avec Galaxy un petit peu de fiction, mais que ce sont quand même, pour la plupart, les textes des années 70 dans fiction qui ont modelé ma vision et après ma petite pratique de la SF. Voilà.
Parce que ça paraît absolument saisissant de nos jours, mais fiction, non seulement c'était mensuel, c'est renversant, c'est inimaginable de nos jours, mais c'était en kiosque. Hein. C'est pas un livre revu de Limerick, c'était en kiosque tous les mois. Quoi. Ça avait été créé donc par les éditions PTA, qui s'était créé en fait pour être un éditeur de polar. Le créateur d'Opta, Maurice Renault, avait acheté les droits de la revue américaine Mystery Magazine. Mystery Magazine était publié par un éditeur de presse, Macquarie Press, qui lui a proposé, tiens, vous voudriez pas, on a un autre magazine qui marche bien, Fantasy and Science Fiction, vous voudriez pas en faire aussi l'édition française? Je crois que c'est grosso modo comme ça que ça s'est passé. Oui, Claude, vas-y.
C'était pas si inimaginable que ça, parce qu'il y avait aussi déjà Galaxy.
Oui, non, mais de nos jours, c'est inimaginable, je veux dire. De nos jours, t'imagines Galaxy ou Fiction ou Bifrost qui paraîtrait tous les mois et en kiosque?
Surtout avec des tirages énormes. Bien sûr, avec 13 000 abonnés, en plus du tirage kiosque. N'importe quelle revue rêverait d'avoir 13 000 abonnés.
Absolument, oui. Et donc, voilà, donc c'est pour ça qu'en 53, en octobre 53, Maurice Renault a créé Fiction. Ce qui est marrant, c'est que, je ne sais pas comment ça s'est fait historiquement, mais ce qui est très curieux, c'est que finalement, Opta est devenu essentiellement un éditeur science-fiction, et que son activité dans le domaine policier s'est vite tarie.
Opta n'était d'ailleurs pas un éditeur du tout. Quand la société a été créée, c'était un office de publicité.
C'était les publicitaires.
C'était une unité artistique d'Opta qui gérait ce genre de choses. Personnellement, je ne sais pas trop pourquoi ni comment le patron Maurice Renault a décidé de se lancer dans l'aventure de l'édition, proprement dite. Mais il est bien vrai, comme tu viens de le dire, qu'à la fin de l'existence des éditions Opta, il n'y avait plus que de la science-fiction ou à peu près son catalogue. Oui.
Il avait une agence de diffusion. Tout simplement.
Effectivement, il était agent aussi.
Ah, il était agent. D'accord.
Agent
Ouais.
Ah ouais. D'accord.
Il avait la méchante début de 1948, auteur américain, mais aussi de la
Hugo.
Ah ouais. Je l'ai vu l'autre jour. J'ai trouvé ça fascinant. J'ai vu il n'y a pas longtemps Maurice Renault parler et bouger, à savoir qu'il est dans un épisode des 5 dernières minutes. Vous savez, au début des 5 dernières minutes, les premières saisons, il y a des spectateurs qui participent, c'est un jeu en quelque sorte, il y a des spectateurs dans le studio. Et il y a et puis c'était des grands écrivains de polar de l'époque qui écrivaient des épisodes.
Renault non plus.
Ah bon, c'est bien, l'agence Renault non plus. D'accord.
Si il est gardé un petit peu d'ordre dans cette discussion.
Oui, bref, donc.
Tu interviendras tout à l'heure, parce que.
Il y a donc un épisode.
Il y a que lui qui entend.
Dernière minute, où l'un des téléspectateurs, c'est le spécialiste de polar, Maurice Renault. J'ai trouvé ça très touchant de voir ça de nos jours.
Je te laisse pas impressionner.
Bon, je peux donner mon.
Oui, vas-y.
Voilà. Alors pour moi, fiction, c'est un très très grand souvenir. Parce que, contrairement à beaucoup de gens, j'ai découvert la science-fiction à 22 ans. Très, très tard. Avant, je ne savais pas ce que c'était. J'étais un littéraire pur, l'exercice. Je suis rentré à Normal Sup, les classiques. Et la première année de Normal Sup, qu'est-ce qu'on fait? On se repose du concours. Alors, je me suis dit, je vais chercher autre chose. Et j'ai cherché dans les tourniquets du hall de gare, où on nous présentait à table, volume, j'ai lu, très coloré. Il y avait du Van Gogh, Asimov, Sturgeon, tous ces auteurs-là. Je me suis dit, je vais me laisser tenter par un volume de chez Gélu. Donc j'ai choisi les noms A de Van Gogh, avec un alibi culturel, c'était traduit par Boris Vian. C'était l'alibi culturel. J'ai lu donc ce roman qui m'a laissé par terre. Et dans la même année, première année Normale Sup, j'ai dû lire à peu près 150 ouvrages de science-fiction. En me servant du livre de Sadoul, l'histoire de la science-fiction moderne. en disant pas que je tombe sur les mauvais bouquins. Donc j'ai lu pratiquement que le meilleur. Et j'étais même très très fâché parce qu'on m'avait caché que la science-fiction, ça existait. On n'étudiait jamais. Et après avoir lu à peu près 150 romans ou recueils de science-fiction, je me suis dit, je vais essayer d'en écrire un pour voir s'il sera reconnu vraiment comme roman de science-fiction. Donc j'ai écrit un premier roman qui s'appelait Le Serpent d'Éternité. Et après j'ai cherché quel est l'éditeur français de science-fiction qui accepterait des premiers romans d'auteurs français. Alors j'ai bien cherché, il y avait un éditeur qui s'appelait Opta, qui avait déjà pris des romans de Dominique Douai, de Jean Leclerc de la Herverie, de Jean-Pierre Hubert, de Jean-Pierre Hubert. Et je vais tenter le coup. Donc j'avais mon petit manuscrit que j'ai pris sous le bras et j'ai quand même rajouté une petite nouvelle, rigolote, pour voir si ça passerait aussi. Et je suis allé à la librairie Opta qui était rue de Mogador.
Mogador, absolument.
Ah, oui. Je me pointe à la librairie Opta rue de Mogador, on me dit « Ah non, monsieur, c'est pas ici qu'on dépose les manuscrits. C'est ailleurs. Je crois que c'était rue de Lille, si je ne me trompe pas. » Donc je vais...
Non, mais dans le quartier des éditeurs.
Oui, dans le quartier des éditeurs. Là, c'était dans un immeuble au premier étage, je sonne, il y avait juste marqué « Édition Opta ». Il y a une dame qui ouvre et qui fait... C'est encore pour déposer un manuscrit. Quand on entrait, mais c'était rien que le vestibule d'entrée, il y avait des piles et des piles. Elle m'a dit, vous êtes sûr que vous voulez le laisser? Je dis, bah, je suis juste ici, je vous le laisse. Elle m'avait dit, de toute façon, vous n'aurez pas de réponse au bout d'un an. Bon, je dis, bah, tant pis, je laisse le manuscrit avec la nouvelle. Et en fait, trois mois après, j'ai reçu une lettre.
Disant non.
Je n'ai même pas fait attention au jour, et on m'a dit, votre nouvelle est très bien, on la prend tout de suite. Pour le roman, on va attendre un petit peu. En fait, le roman est paru 3 ans plus tard. Donc, ma toute première nouvelle est parue directement chez Fiction. C'était en juin 1977. Tu vois, t'as commencé en 77.
En mai.
Moi, c'était en juin. En juin 77, une nouvelle absolument délicieuse de fantasy poétique qui s'appelait « Ah, ah, dit-il en se grattant les couilles ». Voilà. Et à cette époque-là, je ne savais pas que le fantôme, ça existait. Et très peu de temps après, comme j'étais à Normalsup, dans l'aquarium de Normalsup, enfin le hall d'entrée, je vois un petit mot signé Pascal J. Thomas, notamment. S'il y a des amateurs de science-fiction qui sont intéressés pour une réunion, venez me voir dans ma chambre. Et je viens à la chambre de Pascal J. Thomas, et puis il me dit ah, tu t'intéresses à la science-fiction? Et je lui fais oui, je viens de publier une nouvelle chez Opta de la revue Fiction. Il était scié.
Il s'est mis à genoux devant toi.
Mon Dieu, c'est là. Voilà. Il prend des textes fiction. Et ensuite, j'en ai publié quelques autres. Donc, pour moi, ça reste un immense souvenir. Et le roman qui est paru beaucoup plus tard, en 79, moi, on ne me l'avait pas envoyé, mais Galaxy B, c'était aussi en kiosque à journaux. Et je vais chez mon buraliste préféré acheter leur paquet de cigarettes. Il y avait un roman que je n'avais toujours pas lu, qui était sur le présentoir, à côté de la pièce. Wow. J'ai rien dit, j'ai acheté mon roman. Donc c'est pour moi un grand souvenir Opta, Fiction, Galaxy.
Je vous avais dit que ça serait très sentimental tout ça. Alors, revenons à notre...
Ah ben il est là en plus. Il va faire le dédicacé. Continue.
Faut que tu aies un dédicacé. Oui, là,
après, je l'ai acheté. Après, ce...
À son buraliste, non, c'était pas assez bien.
Allez, vas-y.
Notre regretté ami Alain Lebussy procédait de même chez le libraire d'Esneux. C'est-à-dire qu'à force, ils ont commencé à se connaître et puis à s'apprécier. Mais au départ, il y allait et regardait dans les rayonnages où il y avait les colonnes de Fleuve Noir. Si par hasard, le dernier Lebussy était arrivé jusqu'à Esneux. Bon. Il faut dire qu'entre-temps, quand même, la présence de non seulement de revues mensuelles, mais Galaxy B, ça a un statut un petit peu particulier à ce niveau-là, puisque c'était une diffusion presse, et pas une diffusion livre comme on la connaît. Ça avait un peu disparu, il faut dire ce qui est. Les seules choses qui apparaissaient, je continue à parler d'Alain, les seules choses qui apparaissaient encore régulièrement chez les libraires et les poèmes presse, c'était les fleuves noirs et pas autre chose. Donc, anecdote en passant. Voilà. C'est peut-être que sentimental, Jean-Jacques, dans la mesure où cette période-là de fiction, pour ceux qui l'ont connue, et encore on est arrivé que plus ou moins vers une époque qui s'acheminait tout doucement vers la fin malheureuse de la première période. Grande époque, certes, mais bon, on sentait bien. J'ai raconté, mais je crois que c'est dans un courrier à André que j'ai raconté ça, et il a rajouté des données d'ailleurs que je ne possédais pas. La saga des diverses adresses des éditions Opta dans Paris. Moi, j'ai connu aussi une adresse qui était rue d'Amsterdam. C'était un immeuble avec un porche. On montait au premier étage avec un de ces ascenseurs parisiens qui font beaucoup de bruit et qui ne montent pas très vite. S'ils montaient, mais pas. Bon. Et alors, tu arrivais dans ce premier étage où tu découvrais quoi ? Un couloir, certes, mais surtout des caisses. Des caisses avec des livres dedans. Et à cette époque-là, Daniel Rich m'avait dit « On ne te taille pas ta nouvelle », donc c'était après mai 77. « Eh bien, va chez eux, et tu verras une secrétaire, tu fais sûrement partie des différentes personnes qui sont reprises, et tu dis que tu veux bien un arrangement, et si tu veux quelques CLA, tu prends quelques CLA. » Qui était quand même la collection phare des éditions, la collection
club. Le luxe,
très cher.
Relié sous celluloïde avec des illustrateurs merveilleux appelés Philippe Caza, mais aussi le Bius Druyer et quelques autres. Oui, il me semble, oui. Il y a du Caza dans le CLA, il n'est pas là quand même.
Il est dans sa chambre.
Oui, il y a le site de Chai.
Ouais. Ouais, par exemple. Non, le site de Chai, ce n'est pas tout à fait la fin.
Bref.
Donc, j'ai connu ça, j'ai pris des bouquets, je suis parti. On ne m'a jamais payé en bien. Et puis, à la fin, quand je faisais de la critique, il m'est arrivé quand même deux ou trois fois, malgré mon statut d'hyperprovincial, de passer par Paris et d'aller déposer mes critiques. Et là, c'était Quai Conti. Et c'était une sorte de petit rez-de-chaussée un petit peu étrange, très, très bizarre. Où régnait Juliette Vagan. Et je me suis demandé par après si fiction avait perduré, si on n'aurait pas fini dans une sorte de placard à balai, parce qu'à chaque fois, l'espace se réduisait un petit peu. Ça m'a fait penser à certaines nouvelles, entre autres de Robert Heinlein, sur les maisons qui basculent, qui se referment, etc. Voilà. Moi, c'est l'histoire d'Octa et de fiction telle que moi je l'ai connue.
Moi, j'ai connu, comme je te l'avais dit dans le courrier, Dominique a publié dans le dernier numéro de fiction, le numéro 17, un article sur l'historique de fiction.
Achetez-le.
Moi, j'ai connu l'adresse du boulevard de Sébastopol.
Oui, ça, j'ai pas connu.
Et c'est la dernière adresse, je crois.
Oh non, la dernière adresse, c'était juste à côté du Jardin des Plantes.
Ah ouais, il y en a encore une. À l'époque, donc fin des 80, on se demandait vraiment quels étaient les financements des nouvelles éditions Opta, parce que ça avait été racheté. Mais en tout cas, Boulevard de Sébastopol, c'est-à-dire à côté du forum à côté des Halles, il n'y avait pas encore le forum, c'était encore des rues à putes, complètement dans un état absolument lamentable. Et c'était un immense appart, totalement vide. C'était très curieux, tu avais plein de parquets grinçant partout, il y avait juste une petite poignée de bureaux et quelques stocks, et c'était tout vide, c'était très très étrange. Et là aussi, c'était Mme Vagan qui faisait tout. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle a été embauchée, Juliette Vagan, mais de toute évidence, elle a été les éditions Opta pendant très 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 longtemps, mais alors malheureusement, elle ne s'est jamais exprimée. Quoi. Personne ne l'a interviewée, parce que Stéphane Nico, pas encore Stéphanie, avait voulu l'interviewer. Malheureusement, Juliette Vagan, à sa retraite, a eu la maladie d'Alzheimer. Et donc, Nico n'a pas pu l'interviewer. On a perdu de mémoire.
C'est dommage, oui.
Ah oui, on a perdu de mémoire. C'est vraiment dommage, oui.
Et c'est d'autant plus dommage qu'elle a fait la liaison entre les anciennes éditions Opta et les nouvelles, quand c'est devenu plus une direction financière qu'une direction littéraire.
Ouais.
C'est vrai. Ils sont quelques-uns, malheureusement, qu'on aurait dû interviewer beaucoup plus tôt pour faire une mémoire de
l'essence. Mais à l'époque, elle faisait vraiment tout le boulot. Hein.
Ah oui, elle était secrétaire de rédaction, mais en fait, oui, elle faisait tout. Elle n'écrivait pas les nouvelles, quoique, peut-être, on ne sait pas.
Sous pseudo, on va savoir.
Mais le courrier, on peut se poser la question.
Ah oui, oui, d'accord.
Le courrier des lecteurs.
Et autrement, j'ai eu grand honneur d'avoir publié dans le dernier numéro de Fiction introuvable, la dernière nouvelle du dernier numéro et la dernière phrase à sauter.
Ah ouais, ah super. Moi j'ai un article dans le dernier. Dans le titre non distribué, d'ailleurs je ne l'ai jamais eu du coup. Moi je l'ai acheté d'occasion.
Qui ici a un article dans le dernier Fiction ? Ou une nouvelle ?
Ah, bah moi, c'est tout.
Nous deux.
Ah ben, c'est pas très fort. Hein. Je vous félicite pas.
Moi, j'étais vraiment resté sur la tristesse de l'arrêt de cette revue historique. Quoi. Vraiment, et d'ailleurs, lorsque Nico et Grousset ont commencé à discuter pour créer ce qu'est devenu Galaxy, j'avoue que j'ai pas compris pourquoi ils créaient un machin nommé Galaxy qui n'avait aucun rapport avec Galaxy, qui plus est. Et pourquoi il ne reprenait pas le titre et le contrat de Fiction ? Bon, je l'ai fait plus tard. Ça a été à la base du projet des moutons électriques.
Personne n'a de réponse à cette question ?
Non, il faudrait demander à Grousset, il se rappelle.
Je n'ai pas de réponse, mais je connais quelques épisodes de la préparation de la fondation de la galaxie. Et je sais bien que ce n'était pas nécessairement d'abord une question de référence. Ouais. Hein. Dans la mesure où la toute petite équipe qui s'était constituée à ce moment-là, où il y avait aussi Lignac, on a proposé des titres. Et l'idée, c'était plutôt dès le départ de proposer des titres qui n'avaient pas encore été utilisés. Moi, j'avais proposé un titre qui était Quasar, je trouvais ça bien. Alors Nico m'a dit, est-ce que tu sais combien de personnes dans le milieu savent ce qu'est Quasar ?
Pas plus que le Galaxy.
Voilà, bon, peut-être que, ben, encore moins à mon avis, bref. Proposons donc quelque chose d'accessible, alors à ce moment-là je me situe. Et donc finalement ils ont décidé pour Galaxy avec un S. Pour bien prouver d'ailleurs que ce n'était pas une sorte de suite historique par rapport à une revue de Naguère, c'était appelé Galaxy.
Ce qui fait d'ailleurs que beaucoup de gens font référence à l'ancien Galaxy en mettant un S, au nouveau Galaxy en mettant un PADES, et en s'imaginant que c'est dans la continuité de l'un de l'autre, alors que c'est absolument pas le cas. Galaxy sans S et Galaxy presque avec S, tout le monde sont deux revues différentes.
Et presque tout le monde écrit Fiction avec un S, pour le Fiction des moutons électriques du coup.
Carême.
Ah ouais, continuellement en fait quoi.
C'est dommage, c'est pour ça que je m'achève ces deux titres presque identiques, différents.
Ouais, c'est pas une bonne idée.
C'était pas une bonne idée.
Enfin, bon, maintenant on a oublié, c'est pas grave. Mais
puis Quasar, on a pris. Hein. Ça s'apprend.
Non, mais Nébuleux, c'était bien.
Nébuleux, c'était bien, mais seul le groupe Rempart était capable de créer. Autre remarque, question, souvenir historique, là tout à fait.
Personne. Voilà. C'est ça l'avantage. Enfin, personne et en l'occurrence la revue américaine.
Peut-être obligé de reprendre des nouvelles américaines alors.
Oui, ben, c'est même le grand avantage.
Obligé, c'est l'avantage.
Lorsqu'on a créé les moutons électriques, j'ai créé les moutons électriques avec Patrice Duvic et avec plein de monde dont certains sont dans cette salle. Il y a, j'ai vu une quarantaine d'associés aux moutons électriques. Donc vous êtes un certain nombre dans la salle à avoir participé au Capital et à la création et à la vie des moutons électriques. Il y a 10 ans, mais donc j'avais créé les premières discussions, c'était avec Patrice Duvic. Bon, Patrice, ça s'est passé à l'époque, Patrice ne voulait pas que son nom apparaisse.
Parce qu'il était chez eux, parce qu'il travaillait.
Parce qu'il travaillait dans une grande maison parisienne, bref, il ne voulait pas lancer le nom de sa femme qui est apparue. Mais en fait, c'est bien avec Patrice qu'on a discuté au tout début. Et notre idée au tout début, c'était vraiment de relancer l'édition Opta, parce qu'on avait envie de relancer le CLA et Fiction. D'où le fait que maintenant, donc 10 ans plus tard, j'ai mis le temps, que maintenant je fais du hardcover au mouton électrique avec un logo sur la toile. Dans mon esprit, c'est clairement parce que voilà, c'est une sorte d'héritage du CLA. Quant à Fiction, ben, c'est simple. Fiction, c'est la version française de Fantasy and Science Fiction. Donc il a suffi que j'écrive au nouveau propriétaire de Fantasy and Science Fiction, Gordon Van Gelder, parce que Fantasy and Science Fiction a été racheté par son propre rédacteur-chef en 2001. Donc il a créé une société pour continuer à publier Fantasy and Science Fiction que Mercury Press ne voulait pas garder. Donc j'ai écrit à Gordon et je lui ai dit, ben voilà, est-ce qu'on pourrait refaire le contrat historique de Fiction ? Et il a dit oui. Et le contrat historique, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est super avantageux pour la vie d'une revue. C'est à savoir qu'on paye un forfait à chaque numéro de Fiction que les moutons électriques publient, on paye à Gordon un tout petit forfait. de $500. En plus, il a voulu signer le contrat en dollars, donc là, il a fait une grossière erreur, parce que je le paye de moins en moins, du coup, de fait. Ça, c'est de la bêtise américaine.
Ça aurait pu être dans l'autre sens.
Ça aurait pu être dans l'autre sens, ça aurait pas marché. Enfin, bref, en tout cas, c'est super avantageux pour moi, parce que $500, c'est vraiment rien de nos jours. Et on pioche dans toutes les nouvelles depuis 2001. C'est-à-dire tout ce qui est paru dans Fantasy. Alors, c'était un.
Quelques exceptions.
C'était un mensuel jusqu'à récemment. Il y a quelques exceptions qu'on n'a pas le droit de prendre, à savoir Neil Gaiman, Stephen King, Harlan Ellison et Joyce Carol Oates. On n'a pas le droit de ces auteurs-là.
Le reste, ça fait pas mal.
Le reste, ça fait beaucoup de choses. Et on a même le droit de piocher dans ce qui est avant 2001, c'est-à-dire depuis 1949, création de Fantasy and Science Fiction. Faut juste demander, avant 2001, il faut juste que je demande à Gordon de vérifier si le contrat est toujours valable. On n'a eu aucun problème. Hein. On a pu piocher plein de fois avant 2001 et on a toujours eu les textes. Donc voilà. Donc en fait, ça fait, financièrement parlant, ça veut dire que, un, on a une source de textes quand même assez énorme et que financièrement, on paye presque rien. Alors que s'il fallait qu'on achète chaque texte, d'abord, il faudrait négocier avec un agent différent et on paierait une fortune à chaque. Enfin, les $500, on les paierait par nouvelle. Et j'exagère pas. Donc là, c'est super intéressant, quoi. Et puis en plus, bah, évidemment, dans notre esprit, à Patrice et à moi, c'était évidemment la continuité historique. Entre autres, le logo. Le logo, il appartient à Fantasy and Science Fiction. Car il a été designé par George Salter, qui était un designer à l'époque très très célèbre aux États-Unis, un book designer, c'est un des mecs qui a un peu révolutionné le look des livres aux États-Unis. Et George Salter a dessiné en même temps le logo de Fantasy and Science Fiction et le logo de fiction. Bon, j'en ai utilisé la version un tout petit peu plus tardive, qui est un petit peu simplifiée, parce qu'au début il y avait une espèce de boucle qui est un peu mal vieillie, je trouve. Enfin bon, voilà, ça appartient à Fantasy and Science Fiction, donc en signant le contrat, j'ai récupéré tout cela.
Et, ce que tu as oublié, on a gardé le même ISSN.
Ah voilà, c'est ce que je voulais raconter. Oui, alors au début.
Donc c'est vraiment dans la continuité.
Oui, parce qu'au début, un ISSN, c'est le numéro d'enregistrement international, c'est le bibliothécaire qui sert de ça.
Pour les revues.
Et c'est pour les revues. Et au début, j'avais marqué ISSN en cours, parce que les ISSN, on ne peut pas les demander d'avance quand on est éditeur. C'est vraiment pas pratique. Quand on crée une nouvelle collection, les premiers numéros de la collection, ils sont ISSN en cours parce que c'est seulement au bout de quelques numéros parus, quelques volumes parus de la collection, que la Bibliothèque nationale de France nous octroie l'ISSN. Et puis un jour, je téléphone à la BNF en leur disant j'ai jamais reçu l'ISSN. Ils me disent vous êtes fiction, c'est l'ISSN de fiction. Voilà. Donc, nous sommes, même pour les bibliothécaires, nous sommes fiction.
La même revue. Que,
voilà, c'est la même revue, littéralement. Ce qui est vrai, d'ailleurs, puisqu'on a le contrat, mais je n'y avais pas songé. Et du coup, quand j'ai voulu faire quelques anthologies sous le. Eh ben, je les ai appelées Fiction Spéciale et j'ai utilisé l'ISSN de Fiction Spéciale également. Voilà.
Remarque, question, anecdote, souvenir sur à la fois l'ancien fiction, sur ce nouveau fiction.
Il y a eu combien d'années d'accueil finalement ?
9, je crois. Je sais pas, je sais plus, moi, mais...
2003
On l'a lancé en 2004 et ça s'est arrêté en
90. Voilà, 14 ans.
Voilà, 14 ans.
Joseph.
Quel était finalement le ou les ou la responsable des tout derniers numéros de fiction ? Parce que ça ressemble à une sorte de fin...
En fait...
C'est évanoui.
Ouais, alors, en fait, si. Ça, comme j'étais dans fiction, je le sais... et Dominique ne le savait pas précisément quand il a travaillé sur l'article, donc je lui ai fait un peu corriger. Je le sais parce que j'étais en contact avec le mec. En fait, les éditos étaient signés Daniel Walter, mais en fait Daniel Walter ne dirigeait strictement rien. C'est-à-dire qu'il ne dirigeait pas du tout fiction, il ne lisait pas les nouvelles, rien du tout. Hein. Il ne faisait qu'écrire l'édito et diriger le CELA. C'est un drôle de plan,
oui.
Évidemment. Juliette Vingant faisait tout, techniquement. C'était un traducteur qui s'appelle Daniel Lemoine. C'est un traducteur qui s'appelle Daniel Lemoine qui, en fait, sans être crédité, dirigeait Fiction. C'est-à-dire que c'était lui qui sélectionnait les nouvelles de Fantasy and Science Fiction. C'était lui également qui sélectionnait les nouvelles françaises. Par contre, pour la rubrique critique qui était à la fin, c'était Juliette Vingant qui Non, elle ne dirigeait pas véritablement. Elle avait simplement quelques collaborateurs et on lui envoyait ce qu'on voulait comme chronique. Et il fallait faire super... Alors, à l'époque, on était encore sur une machine à écrire. Hein. Et à l'époque, il fallait faire super gaffe comment on rédigeait notre chronique, mais littéralement. C'est-à-dire qu'il fallait que le titre soit en genre, le titre, il fallait le taper en majuscule, et un tiré, le nom de l'auteur en minuscule, ou un truc comme ça. Et il fallait que tous, on fasse attention à le taper comme ça, parce que Juliette Vindant, elle prenait notre tapuscrit et elle l'envoyait au Vietnam pour être photocomposé, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. C'était photocomposé au Vietnam, donc lettre à lettre, c'est-à-dire qu'évidemment, ils ne lisaient pas le français, donc ils recopiaient les lettres. Et c'était, ils recopiaient exactement ce qu'il y avait décrit. Et donc, si tu n'avais pas mis le titre en majuscule, ben, ils ne le mettaient pas en majuscule, quoi. Et ensuite, c'était collé dans la maquette par Juliette, comme ça. Donc, c'était vraiment très étonnamment rudimentaire.
Claude,
voilà.
Ah oui. Mais qui commandait les illustrations du coup?
Elle en recevait. En fait, je ne sais pas si elle les commandait, mais c'était une habitude que des illustrateurs, y compris des tonnes d'illustrateurs amateurs, envoient une proposition de couverture à Vision. D'ailleurs, Jean-Daniel Bray sur Facebook parlait ces derniers jours. Il y a une couverture de Jean-Daniel Bray qui n'est pas parue. Et qui est en vente aux enchères sur eBay, c'est-à-dire que de toute évidence, quelqu'un a mis la main sur les stocks d'originaux de chez Opta et commence à les vendre sur eBay. Alors, oui, ça craint un peu.
À propos de Daniel Lemoine, c'est effectivement lui qui choisissait les nouvelles, puisque comme j'ai publié la dernière nouvelle du dernier numéro de Fiction, il m'avait écrit en disant il y a une nouvelle que j'ai lue de toi qui m'intéresse beaucoup, qui s'appelle Les architectes d'écho. Ça faisait plus de 6 ans que je l'avais envoyée.
Wow.
Il voulait la faire publier. Je lui ai dit, je ne peux pas, parce qu'elle va sortir dans quelques mois aux éditions de l'Aurore, dans une anthologie qui va s'appeler Intrusion. Donc je ne sais pas, elle va donner aussi. Bah, elle dit, envoie-moi n'importe quoi d'autre, pourvu que ça fasse à peu près les mêmes dimensions. Alors je lui ai envoyé une nouvelle qui s'appelait Le proctologue et l'amateur de batik. Une nouvelle complètement folle sur Jules de Ré, il trouve ça très très bien, et que la nouvelle est sortie, donc la dernière phrase a sauté, et c'était bourré de coquilles, c'était absolument un truc à cacher absolument. Quoi. Mais c'était bien Daniel Lemoine qui m'avait contacté.
Mais une fois, ils ont publié une nouvelle de Julien Verlanger, alias Gilles Thomas. Je ne sais plus, ils l'ont publié eux sous le nom de Gilles Thomas, mais c'est en dire son nom. Mais ils n'avaient jamais répondu à l'auteur. Donc l'auteur avait été furax. Que cette nouvelle super violente, très très intéressante, mais l'auteur était furax, et du coup elle l'avait filé, à l'époque il y avait un annuel qui était l'année de la science-fiction, qui était dirigé par Boimard et je ne sais plus qui, Philippe Hume je crois, et du coup elle l'avait publié, et du coup la nouvelle était parue deux fois, une fois de manière pirate dans Fiction, et une fois de manière officielle dans l'année de la SF.
Oui.
Est-ce que Pierre Scholz pense avoir une responsabilité dans la fin
vu comment il aura certainement.
Certainement. Oh mon Dieu, j'ai coulé un nombre de j'ai coulé l'Aurore, j'ai coulé Opta, j'ai coulé Hors Commerce, j'ai coulé Philippe Olivier, j'ai coulé
Assassin.
Je ne peux pas le dire à Jérôme. Hein.
Anouk. Mireille, je crois qu'il y avait Anouk qui dit. Non je crois à nous que vous voulez parler, non? Non. Non, je me suis trompé. Non, bah alors Claude.
Pour dire autre chose, c'est vrai que l'époque déjà du Quai Conti, c'était en plein délabrement, il fallait descendre de 3 marches là. Les critiques étaient parfois passées 2 fois de suite dans la revue.
Oui, aussi.
Moi j'avais écrit une critique qui n'avait pas plu à Pelot, j'ai reçu une lettre d'engueulade, et puis dans les prochains numéros de Fiction, elle est reparue.
Oh la vache!
Et la première fois où j'ai mis les pieds qui est Conti, j'arrivais pas à, je sais pas si c'est arrivé à d'autres aussi, si vous arriviez à ouvrir la porte d'entrée, la poignée.
C'est comme chez Borman.
Ça ne voulait pas s'ouvrir. Et le temps que Julien Lengand vienne m'ouvrir la porte, j'avais la poignée dans la main.
Dis-moi,
la première fois où j'étais.
Pour une publication littéraire, qui est Conti, c'est une belle adresse quand même, non?
Ah oui, c'est vrai.
Oui, non. Oui, là-bas derrière. Joseph.
Je n'ai pas fait allusion à ce petit problème. Là, j'ai vu passer, je crois que c'est assez que vous avez peut-être allusion à ça, un dessin de Jean-Daniel Breck pour une couverture de fiction n'avait pas été prise.
Oui, oui, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça que je parle.
Il y a d'autres qui circulent.
Ben, je ne sais pas. Mais d'où ils l'ont trouvé, quoi.
Monsieur est intéressé.
Parce que c'est, je me rappelle même, j'étais là, c'était à la convention de Bordeaux, donc 1981. Fiction venait d'être repris par Alain Dorémieux comme rédacteur chef. Et plusieurs jeunes dessinateurs lui ont proposé des couvertures. Il a pris cette couverture de Jean-Daniel, mais il ne l'a jamais publiée. Donc d'où sort cet original qui maintenant est sur eBay? Jean-Daniel suppose que c'est les stocks de chez Opta qui sont réapparus d'une
manière ou d'une autre.
C'est super étrange. À Lyon, pourquoi à Lyon, je ne sais pas. À Lyon, j'ai acheté, chez un bouquiniste, chez le Père Pénard, j'ai acheté un lot de hardcover américain, état neuf, de l'agence Renault-Lenclude, et avec des tampons de Renault-Lenclude et des éditions Opta dedans. Comment est-ce que c'est arrivé ce lot? J'ai Dangereuse Vision de Edison, par exemple, enfin voilà, en édition originale, super beau, et état neuf. Il y a un Wilhelm qui n'a pas été traduit, enfin bref. Je ne sais pas comment est-ce que ces stocks sont arrivés à Lyon, on va savoir.
Francis Saint-Martin.
L'agence avait l'habitude de distribuer les livres américains qui n'avaient pas été vendus.
Ah ouais.
Donc certains visiteurs se voyaient offert les stocks qui encombraient l'agence. Et donc ce qui fait qu'on trouve des auteurs ou des lecteurs, tout simplement, de l'agence qui créaient des critiques, repartaient avec des paquets de livres.
Comment tu sais ça?
Bah parce que j'ai connu plusieurs auteurs. Je dois en avoir moi-même.
Ouais.
Mais
je ne sais plus.
Des livres qui avaient deux ans d'existence n'intéressaient plus personne. Donc ouais. L'agence s'en débarrassait.
Oui, d'accord.
Jean-Luc.
En fait, comment s'est terminé les éditions Opta? C'est faillite ou...
Je suppose, oui. On n'a pas su, a priori, hein, on a le droit de me contredire, mais a priori, ça a dû. Enfin, ça a disparu du jour au lendemain, le dernier numéro de fiction n'a pas été distribué. Je pense que ça a été une faillite. Soit ils ont fermé tout simplement, soit ils ont été mis en faillite.
S'il y a une faillite, il est très possible qu'il y ait une partie des lots de personnes qui a été, loin de tout ce qui était donné, qui a été vendue aux enchères.
Oui, tout à fait. Mais on n'a pas entendu parler d'une liquidation, donc je pense plutôt qu'ils ont fermé tout simplement. Ouais. Mais dans quelles conditions, on va savoir. Hein.
Je le mets derrière.
Pour les couvertures, je ne sais évidemment rien, mais pour les hardcovers, moi je me souviens dans les premiers numéros de fiction que fiction vendait des hardcovers, proposait à la vente des hardcovers, si je me souviens bien, dans les numéros on voit des ventes d'éditions originales américaines à publication.
Ah oui.
Et donc, alors les couvertures, je pense que c'est une autre provenance, mais les hardcovers, c'était, ils distribuaient en France aux abonnés ou aux acheteurs, des hardcovers américains.
D'accord, les bouquins qu'ils avaient dans leur stock.
Voilà.
C'est marrant.
Ça, c'est étonnant.
C'était pas exactement ça. La maison mère aux États-Unis avait aussi un service bibliographique où il proposait pas seulement des hardcovers, mais des livres de poche récemment parus. Et Fiction a tenté de reprendre ça en France.
D'accord.
Ils étaient correspondants. Et puis ça a duré à peu près deux ans.
Oui, mais ils n'étaient pas tamponnés. Moi, ce que j'ai, ils sont tamponnés, édition Opta et agence Renault-Lenclude. Donc ça vient bien des locaux d'Opta.
Oui, mais ça c'est différent. Tout simplement, ça a duré à peu près deux ans, et puis il y a eu une annonce en fiction comme quoi ce n'était plus rentable.
D'accord.
Alors il cessait le service bibliographique étranger.
D'accord.
Re-Francis. Pourquoi je dis re-Francis? Il a le droit de parler. Non, il ne veut plus parler, du coup.
Donc on a... Pour reparler des moutons électriques.
Encore Joseph. Ah,
juste une remarque sur les problèmes des bouquins avec le tampon, Renault-Lenclude, on en voit circuler depuis des années. J'en ai ramassé sur des brocantes, chez des bouquinistes. Visiblement, c'est des choses qui circulent depuis un moment.
D'accord.
Ce n'est pas récent. Hein,
d'accord.
Parce qu'ils recevaient plusieurs exemplaires.
Oui, je suis pas.
Mouton.
Et donc, pour revenir au mouton électrique, qu'est-ce que je veux dire ? Oui, avec, avec la crise, donc on a commencé à envisager les moutons électriques. C'était vraiment avant que je vous en parle à vous, ceux qui sont des associés des moutons dans la salle. On s'est dit, bon, on va lancer fiction, on va lui donner tel format, etc. Mais on en fera 5. Parce que de toute façon, il va y avoir une érosion des ventes. C'est une anthologie, Rapidos, ça va, les ventes vont s'effondrer, quoi. Donc on avait prévu, on l'avait évidemment pas communiqué là-dessus, on n'allait pas se suicider non plus, mais on avait prévu d'en faire 5. Bon, le numéro 17 vient de paraître, donc ça va. Ce n'est pas fini, mais ceci dit, érosion des ventes, il y a eu. Il y a eu depuis 3 numéros une terrible érosion des ventes, à savoir que les libraires ne veulent plus de recueils de nouvelles. Et donc fiction qui se vendait tout le temps la même quantité, hein, et là se vend beaucoup moins, au point qu'on a envisagé plusieurs fois d'arrêter fiction, parce que j'ai vraiment foutu du fric en l'air avec fiction. Alors que du fric, on n'en a pas beaucoup, et que évidemment, hein, comme l'a dit Jean-Jacques, qui est le secrétaire de rédaction et qui fait la plus grande partie du boulot, c'est beaucoup, beaucoup de boulot. Donc on envisageait très sérieusement d'arrêter très très prochainement. Et puis un certain Jérôme Vincent est venu une fois, suite à la création des Indés de l'Imaginaire, qui est un collectif qui réunit de manière très serrée les Moutons Électriques, ActuSF et Nemos. Jérôme un jour a dit « Hey, si les Indés reprenaient fiction, puisque tu parles de l'arrêter, c'est vraiment dommage, c'est un super beau support, c'est historique, etc. » Donc je vous annonce officiellement, puisqu'on avait décidé de le faire là maintenant, aujourd'hui, dans la salle, il y a aussi Xavier Dolo qui fait partie du comité de fiction. On a donc décidé, avec les Indés de l'Imaginaire, de relancer fiction. Donc ce sera au prochain numéro, numéro 18, ce sera en février. On en sortira 3 par an, au lieu de 2 par les Moutons Électriques. Ça sera coédité par les 3 éditeurs. Donc on en sortira 3. Ça fera 272 pages, donc légèrement moins. Actuellement, c'est 306 pages. Donc ça sera 272, mais 272 fois 3 au lieu de 306 par 2. Donc en fait,
on calcule.
Non, moi je ne calcule pas. On va le faire en format, un format comme, grand comme l'iPad que le monsieur a entre les mains.
Voilà, montrez-le donc, monsieur.
On a choisi ce format-là. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte que, alors qu'en fait, ça ne change pas grand-chose, mais en fait, on s'est rendu compte que la mode a changé. Les livres revus, c'est considéré comme un peu ringard, et surtout les libraires n'en veulent plus. Alors, c'est eux qui décident. Quand ils ont décidé, un libraire, que quelque chose ne va pas se vendre, ils réalisent leur propre prophétie, ils ne commandent pas le bouquin. Comme ça, effectivement, ils sont sûrs qu'il ne va pas se vendre. Et en fait, ce qui marche, et qui marche très très fort dans beaucoup de cas, c'est les MOOC, ça veut dire livre magazine, book magazine. Alors, en fait, c'est pareil, c'est livre revue en librairie. Mais c'est pas tout à fait, par contre, c'est pas tout à fait le même esprit. Et c'est pas forcément les mêmes formats. Donc, on va le faire en couleur. Donc, ça sera 272 pages couleur. Et il y aura une partie rédactionnelle. Alors, ça ne sera pas du tout un rédactionnel du même type que Galaxy et Bifrost, parce que ça n'aurait aucun sens de faire la même chose que Galaxy et Bifrost. Donc, vous verrez ça. Et nous en avons. Alors, Jean-Jacques continue à être la cheville ouvrière de la partie Fantasy and Science Fiction, à savoir la majeure partie du numéro, toutes les nouvelles françaises ou étrangères. Pour la partie rédactionnelle, il chapeaute le tout. Les Indés ont décidé d'embaucher mon co-directeur littéraire Julien Métan. Vous ferez sa connaissance demain, il sera là demain. Et donc voilà, donc on a désormais un rédac-chef en plus du rôle du secrétaire de rédaction. Et la revue sera vraiment indépendante, hein, des trois maisons. Il dirige. Et Julien a vraiment, vraiment étudié, parce que c'est en quelque sorte un entretien d'embauche, hein, pour lui, la première réunion. Et il a vraiment étudié ce que c'était un MOOC, quel état d'esprit, The Believer, comment c'est, 21, ou un mot comme ça, Feuilleton, voilà, tous ces livres revus de nouveaux types. Et il m'a assez épaté, je veux dire, à réussir à à trouver quelques, voilà, comment ça pouvait marcher sous forme de MOOC. Puis Frédéric de chez Nemos et Jérôme de chez MTC avaient pas mal d'idées aussi sur comment ça pouvait fonctionner. Voilà, donc ça va être, enfin, moi je suis super content parce que ça permet la fiction d'abord de continuer, ce qui n'était pas du tout gagné, vu que notre diffuseur, à un moment donné, n'avait pas du tout envie qu'on continue. Et puis ça va vraiment être très très beau. Alors on est en train de discuter en ce moment de la maquette, de la mise en page. C'est pas encore fini d'être défini, ça.
Ça va péter.
Voilà, ça va être. Mais bon, rien que les premiers essais, c'est déjà waouh, waouh, je vous assure.
Oui.
Il faut toujours revenir en arrière.
Mais il faut toujours revenir en arrière.
Le temps que tout le monde digère l'info, là, quand même, qui n'est pas rien. Fiction avait la particularité d'être l'édition française d'une revue américaine, mais publier des textes d'auteurs français ou francophones, en tout cas, voire d'autres pays d'Europe. Hein. Et donc, est-ce que quelqu'un a une idée de la façon dont ça s'est négocié avec la maison mère, et éventuellement à l'aune de ce que tu connais avec la version actuelle de fiction? Et la deuxième partie de la question, c'est est-ce que dans l'autre sens, ça a fonctionné? C'est-à-dire, est-ce qu'à une époque, des auteurs publiés dans fiction qui n'étaient pas dans fantasy et science fiction ont été traduits et publiés aux États-Unis?
Alors, je réponds à la deuxième question de ta partie. La deuxième partie de ta question, c'est non. Le marché américain est strictement fermé. Les Américains nous font chier régulièrement en attaquant la soi-disant exception culturelle française. C'est évidemment de la langue de bois, d'une hypocrisie hallucinante, puisqu'il y a une exception culturelle, mais en béton armé, c'est l'exception culturelle américaine. Sur le nombre d'ouvrages qu'ils traduisent, il y en a 1% qui viennent de langue étrangère. Et en général, c'est des éditeurs universitaires qui les traduisent. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 99% de textes américains. Même les textes canadiens ou anglais ou néerlandais ou australiens sont vraiment très très minoritaires dans le marché américain. Donc non, ils n'ont jamais pris des textes dans fiction. Ils n'en ont pas l'intention, d'autant plus qu'ils lisent pas le français, de toute façon. Alors en revanche, ils ont publié, depuis que c'est Gordon, Gordon a publié dans Fantasy and Section quelques textes français, mais dont les auteurs ont payé eux-mêmes la traduction en américain. C'est-à-dire que Mélanie Fazi et Georges-Olivier Château-Renaud ont envoyé des nouvelles traduites en américain et les ont envoyées. Et donc Gordon les a lues et son comité les ont lues comme si c'était des nouvelles. Voilà. Mais il y a un auteur indien dans les pages de... non, l'Indien, c'est nous qui l'avons traduit. Mais il y a un auteur... coréen, il y a une coréenne, bon, elle écrit en américain, et ainsi de suite. De toute façon, ils ne lisent que l'américain, ce genre-là. Quant à savoir, la négociation, il n'y a jamais eu, je ne crois pas qu'il y ait eu vraiment de négociation. Ça leur est quand même apparu d'emblée, je pense, évident qu'il y avait un apport national et international possible. Il n'y a pas le contrat, qui est le contrat d'origine, hein, que j'ai signé pour les moutons électriques. Le contrat, ce n'est pas un contrat d'exclusivité. Simplement, il est évident que, puisqu'on est la version française, et de toute façon, même économiquement, il est dans notre grand intérêt de traduire un maximum de textes de fantasy and science fiction, mais on n'en a pas l'obligation. Si on était complètement cinglé, on pourrait faire un numéro de fiction où il n'y a pas de texte qui vienne de fantasy and science fiction. Ça serait complètement con, hein, ça n'aurait aucun sens, hein, donc on ne va pas le faire. Mais voilà, il n'y a pas d'obligation.
Je rajoute un mot avant de te passer la parole. Jusqu'à une période récente, qui est, je crois, octobre 2009, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, Fantasy and Science Fiction était encore mensuel. Ils sont devenus bimestriels, bimestriels, depuis donc 4-5 ans. Mais mensuel, ça veut dire qu'ils ont publié à peu près 5-6 nouvelles par mois. Nous, on fonctionnait sur la base de 2 numéros par an. Donc on était obligé de toute façon de faire une sélection. On ne pouvait évidemment pas, en termes quantitatifs, tout publier. Donc il y avait une super sélection qui s'opérait de notre part. On avait l'impression, nous, d'être le super fantasy and science fiction, la crème de la crème, le best of, ouais. En quelque sorte. Yes. Joseph, c'est toi qui voulais parler.
Attends, je voulais rajouter un truc amusant. Récemment, ça doit être dans le, je sais plus si c'est dans le 15 ou dans le 16, il y a un auteur, il y a quelque temps, un jeune auteur qu'on a découvert dans les pages de Fantasy and Science Fiction, qui s'appelle, je vais dire en français, Eugène Mirabelli, En fait, c'est un vieux monsieur, très vieux.
Il a plus de 80
ans. Mais bon, il venait de commencer à publier dans Fantasy and Science Fiction. On a adoré toutes ces nouvelles, on les a toutes publiées jusqu'à présent. On les a même tellement toutes publiées qu'on en a publié qui ne viennent pas de Fantasy and Science Fiction.
Et nous les donner.
Il nous les donne. Et chose étonnante, un jour, Gordon m'a envoyé une nouvelle de Eugene en me disant « Ah, bon, moi, je l'ai refusé pour Fantasy and Science Fiction, je pense que ce n'est pas pour moi, mais je pense que tu vas aimer. » Et effectivement, donc, on a publié dans Fiction une nouvelle refusée par Fantasy and Science Fiction, mais proposée par son rédacteur-chef.
Et par l'auteur.
Précision. Dans les années à peu près dans les années 60, Damon Knight était en relation avec Fantasy and Science Fiction. Et il a traduit quelques nouvelles qui ont paru, qui avaient paru dans Fiction, notamment de nouvelles de Nathalie Enberg. Et il comprenait le français. D'ailleurs, c'est lui qui a traduit Ravage en anglais, qui a réussi à le faire publier. Donc, il y a eu quand même une tentative. Mais Damon Knight comprenait le français. Oui. Et actuellement, je ne vois personne dans la rédaction actuelle, soit dans son cas.
Je me rappelle, il y a quelques années, il y a plus de 10 ans, quand j'en avais parlé avec lui, il est capable de lire en français. Je ne dis pas qu'il est capable de tenir une conversation. Oui, mais ça, c'est beaucoup plus facile de lire une langue étrangère que de converser dans une langue étrangère. Tu le sais bien, Jean-Pierre. Et donc, il est capable de lire des livres en français. Ça lui est arrivé de lire des SF en français, mais ça ne lui plaît pas.
Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il dit ?
Ce qu'il avait dit, c'est qu'il y a des bouquins de SF françaises qu'il a lus, quelques-uns. Il ne m'a pas dit de nom ni de nombre, n'est-ce pas ? Mais il dit ça commence bien, il y a des idées et tout, et puis au bout d'un moment ça part dans des choses fumeuses qui sont plus de la SF, et moi ça me plaît pas. Voilà. Donc lui, je te dis pas que si ça lui plaisait, il aurait entrepris de les traduire, parce que il considère que ça coûte cher de faire une traduction.
Et tiens donc.
Et ça va être au contraire un handicap commercial que de publier un ouvrage traduit. Donc, ça ne sera toujours que des choses qui se produiront de façon exceptionnelle. Ça s'est produit, mais de façon exceptionnelle, par exemple avec Don Verlaine, qui lui aussi comprenait les langues étrangères, et qui, un peu par copinage, a publié du Pierre Barbet, et aussi du Gérard Klein, il y a longtemps. Voilà.
Jean-Pierre, puis Jean-Luc.
Encore une précision. Je voudrais encore apporter une précision. David Artois ne déteste pas tout ce qui est en français. Mais seulement, il aime un peu la très vieille science-fiction française. C'est un fan de Robida, par exemple.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Et encore une précision, dans les premiers numéros de Fantasy and Science Fiction, on trouve deux nouvelles allemandes de Kurt Lesbitz, qui est un des grands classiques de la science-fiction allemande.
On l'a très bien connu, mais...
Jean-Luc, je crois. Non, il refuse finalement. Non, il refuse.
Alors, dans le nouveau Fiction, enfin, à partir du numéro 18, toujours version française de Fantasy and Fiction, donc toujours la même dose de nouvelles de notre revue mère américaine, mais un peu de rédactionnel. Et on va y ajouter, pour des raisons bassement commerciales, on y ajoutera vraisemblablement, enfin, en tout cas de manière assez régulière, je pense, des nouvelles américaines ne venant pas de Fantasy and Science Fiction, mais avec un grand nom. C'est-à-dire, si on peut marquer Dan Simmons et Hirk. Qu'est-ce que j'ai dit là ?
Non,
ouais,
tu t'es trompé.
Non, je voulais dire Scott Lucas, pardon.
Non.
Bref, si on pouvait mettre un nom américain, genre Robert Silverberg, puisque ça, on va le faire, sur notre couverture, voilà, quelques noms. Des noms connus. Voilà, donc,
et
ça,
qualité.
C'est parce que.
On
va voir comment ça va évoluer, mais voilà, des noms de qualité très connus, mais on pourra peut-être piocher comme ça dans des anthologies que ActuSF publie, et donc en pré-publiant, alors on envisage de pré-publier des nouvelles aussi pour rajouter un grand nom sur la couverture. On verra si on le fait effectivement, on verra bien.
Dites-moi, André-François Ruau, aux moutons électriques, il n'y a pas que fiction, que je sache.
Non, ça fait 10 ans que je fais des bouquins, donc effectivement, j'en ai publié une centaine, il n'y a pas que fiction. Heureusement, d'ailleurs, parce que c'est pas... Sinon, je serais déjà mort de faim, figurez-vous. Ben oui, il y a beaucoup de choses. Il y a quoi ? Il y a 4 collections, maintenant, aux moutons électriques. Il y a eu une première période, jusqu'en fin 2007... On faisait des bouquins de petit format, mais ça n'a pas marché. On a failli fermer, quasiment. Heureusement, les gentils associés ont remis des sous. Et on a recapitalisé, on a redémarré avec une nouvelle formule. Et là, depuis, les moutons électriques fonctionnent. La première collection qui a fonctionné, ceci dit, c'était la Bibliothèque Rouge. Donc une collection d'études sur, en généralement, plutôt du polar, des grandes figures de la littérature populaire qu'on étudie comme si c'était une biographie d'un personnage réel. Donc ça, c'est une collection qui a très longtemps marché.
Exemple. Bon,
ça se vend encore, hein, mais il y a eu des bios on les a refaits, parce qu'on relance la collection, donc on a refait les bios de Arsène Lupin, Hercule Poirot et Sherlock Holmes. Et l'an prochain, on fait les jeunes détectives, c'est-à-dire Fantomette, Le 5, Détective Conan, tout ça, Marion Duval, tout ça. Et puis un volume sur Jet l'Éventreur. Donc il y a d'autres volumes, puis il y a des volumes sur les villes qui ont commencé à apparaître. Là, il y a Lyon, Londres et Paris, puis il y aura Bruxelles, Venise, Los Angeles et New York qui sont en préparation. Donc ça, c'est historiquement la première collection des moutons électriques qui a bien marché. Je vous ai dit qu'on avait, avec Patrice Duvic, une envie de ça et là, mais c'était tout simplement impossible parce qu'il n'y avait pas d'imprimeur en France qui sache faire du hardcover, vu que le hardcover, n'est-ce pas, ça n'existe pas en France. Donc, en tout cas, c'était à des prix absolument démentiels, parce que j'avais quand même demandé des devis, mais c'était démentiel, impossible à faire. Il y a eu une révolution de l'impression qui arrive des pays de l'Est. Et eux, ils font ça, puisque de toute façon, ils impriment des bouquins pour les Allemands, pour les Néerlandais, ou pour les Anglais, où il y a du hardcover de manière banale. Donc maintenant, on peut faire du hardcover à des prix tout à fait normaux et abordables. Donc l'autre collection que j'ai lancée donc, en 2007, en relançant, en 2007 ou début 2008, c'est la Bibliothèque Voltaïque. C'est la collection où sont les romans et le recueil de science-fiction et de fantasy. Avec quelques très rares incursions vers le polar. Sur le fantastique, pour l'instant, il n'y en a pas. Enfin, il y en a eu un récemment. Il y en a d'autres qui sont envisagés. Et puis, il y a une collection, ce qui m'a été apporté par l'ex-gérant des moutons électriques, Raphaël Colson, et Julien Mettant, à savoir la Bibliothèque des Miroirs. L'idée étant de faire des essais, parce que dans les littératures de genre, il y a assez peu d'essais qui paraissent. Et donc de faire une collection d'essais qui étudie les grandes thématiques, ou des petites thématiques d'ailleurs, de nos littératures de genre, de nos littératures, disons, pas que de la littérature au contraire justement, mais de la culture populaire née des médias de masse, c'est-à-dire de la bande dessinée, les comics, les mangas, les littératures de genre, les séries télé, le cinéma de genre, et les jeux vidéo, tous ces éléments de ce qu'on appelle maintenant un peu la culture geek et qui deviennent de plus en plus mainstream, les étudier. Donc d'où des essais sur le space opéra ou sur le steampunk ou sur les zombies, sur les vampires et ainsi de suite, sur des grandes thématiques. Il y a aussi sur des petites thématiques pointues, hein, il y en a un sur la psychogéographie. Ça, c'est assez arbitre, comme ça peut paraître très étrange que j'ai publié ça, mais en fait c'est un bouquin culte qui se vend fort bien, donc j'ai eu raison. C'est un thème que j'adore. Non, mais j'ai eu raison, ça m'a fait plaisir sur ce coup-là. Ça marche bien. Ça va. C'est l'art de marcher en ville et de le raconter. Donc, d'avoir une approche à la fois poétique et très subjective du paysage de la ville et du fonctionnement de l'urbanisme. J'ai traduit un bouquin anglais. Mais qui était incomplet, j'y ai rajouté des choses dedans et j'y ai rajouté notamment quelques doses de fantasy et de science-fiction parce que Notre-Dame des Ténèbres de Fritz Leiber par exemple, c'est un très grand roman psychogéographique, puisque c'est sur la ville de San Francisco qui prend presque vie, enfin, qui s'incarne dans certaines entités, qui hante le narrateur principal, et ainsi de suite. Je sais pas si t'es au courant, mais je crois que ça n'existe pas en fait.
Il paraît.
Oui, on va demander à l'auteur de 40e fondation. Ouais. Et puis récemment, je viens de lancer une quatrième collection, Le Rayon Vert, qui est une collection dédiée à la littérature populaire, mais ancienne, toujours confondue. Donc il y a des bouquins d'anticipation, mais il y a du KPDP, il va y avoir de la comédie de mœurs, il y a beaucoup de polars. Du roman feuilleton, etc. Et on essaie de trouver que des œuvres réellement rares. C'est-à-dire pas des choses qui sont déjà parues, même chez Néo, chez Marabout, de préférence. On essaie de trouver vraiment des œuvres vraiment complètement oubliées, qui évidemment nous passionnent. Et par exemple, et même là, l'an prochain, on publie une comédie policière anglaise. The Hotel Babylon de Arnold Bennett. Pour les Anglais, c'est un bouquin super, 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 super célèbre. Mais vraiment. Vous allez en Angleterre, dans toutes les collections de poche, il y a l'édition, les éditions bon marché. C'est vraiment un bouquin archi banal, hyper connu. Hyper connu, voilà. Parfaitement inconnu en France, jamais traduit. Donc déjà, c'est quand même voilà, une découverte pour la France. Mais en plus, grâce à Jean-Daniel Brecq, Jean-Daniel a découvert une chose absolument incroyable. À l'époque de la parution du roman, l'auteur, Arnold Bennett, a fait une nouvelle supplémentaire qui se passe dans le même hôtel, qui est une petite nouvelle policière, et elle est parue en Nouvelle-Zélande dans la presse, dans un journal en Nouvelle-Zélande. Elle a été rééditée qu'une seule fois, à la même époque, dans un recueil au Canada. Cette nouvelle n'a jamais été rééditée, jamais intégrée à aucune édition. Eh bien, elle sera là, en annexe de notre édition, là, là, là. Donc vraiment introuvable, même en anglais. Voilà.
Bah, on peut donner un exemple célèbre qui est le prisonnier d'Islanda. Qui est un roman qui a été traduit en France assez longtemps, qui n'est pas trop difficile à trouver, mais qui est accompagné d'une préquel, non, c'est une préquel qui a été traduite il y a très longtemps, très mal, de façon très incomplète.
C'est la séquel,
oui. Et d'un recueil de nouvelles dans le même univers, quelques dizaines d'années avant, quelques siècles avant, qui elle est complètement inédite. Donc c'est un objet à la fois un peu connu et pas connu du tout. Autour d'une thématique célèbre.
Et le recueil de nouvelles, maintenant il est trouvable en anglais. Mais lorsque j'avais prévu de le publier, il était introuvable.
Même en anglais, introuvable.
Même en anglais, il était introuvable. Donc maintenant, ils l'ont redécouvert et il y a eu plein d'éditions récemment. Donc,
c'est très chou.
Et puis, y a un auteur de polar, Pierre Zakon, contemporain de Gaborio, jamais réédité, complètement oublié. C'est très difficile à trouver, mais j'ai un collaborateur qui en a plusieurs. Et l'autre jour, il m'a mis un SMS, mais il était aux anges, il était en conférence à Nice, et chez un bouquiniste, il a trouvé un Pierre Zakon, waouh! Donc voilà, et là, le premier Pierre Zakon qu'on a réédité, l'Inconnu de Belleville, il n'a pas été réédité depuis 1919, par exemple. C'est pour vous dire que ce n'est pas très courant.
Oui.
Alors, je me posais toujours une question, parce que qu'est-ce qui peut déterminer le fait qu'on va traduire un roman américain? Est-ce que, par exemple, le Prigo est systématiquement un article à traduire? Parce qu'il y en a qui ne sont pas encore traduits. Donc, on se pose des questions. Pourquoi? Bon, logiquement, ce qui est de considérer que le meilleur roman de science-fiction, chez nous, ne soit pas parfois traduit. Quoi.
Je ne peux pas vous répondre. Je ne fais pas de traduction d'américain. Je ne fais plus de traduction d'américain.
Non, mais...
Parce que ça coûte une fortune, il faut payer l'agent et le sous-agent, genre 2 ou 3 ans à l'avance, avant la parution. Il faut payer le traducteur, qui est payé une fortune considérable si on le compare à ce qu'est payé un auteur. C'est-à-dire que ça coûte genre entre 3, 4 ou 5 fois plus cher qu'un auteur. Tout ça pour une vente qui va être identique ou inférieure chez moi, je précise. Aux créations françaises. En plus, c'est personnellement, d'abord, je suis chauvin et ça m'ennuie de donner de l'argent aux étrangers, soyons clairs. Je commence à trouver ça un peu lourdingue de donner tout le temps du fric à des auteurs étrangers. Et puis surtout, c'est tellement plus passionnant de faire de la création, de découvrir des auteurs, ou d'en redécouvrir pour ce qui concerne le Rayon Vert. Alors bon, sur le Rayon Vert, on fait des traductions, mais de choses qui sont dans le domaine public.
Mais sur le domaine privé, actuel, contemporain, à titre personnel, en tant qu'éditeur, voilà. De toute façon, économiquement, on n'a pas les moyens et ça va être de moins en moins. Il va y avoir de moins en moins de traductions hein, en science-fiction et fantasy. Ça n'est plus rentable.
D'ailleurs, pour rebondir sur cette question, si nous ne le faisons pas, les autres non plus. Ouais. Je veux dire, ils continuent à subsister des Nebula et des Hugo non traduits. Ouais. Et personne ne le fait.
Mais parce qu'on ne peut pas.
Oui. Non ? Ah, c'était un geste spasmodique. Ah, d'accord. Non, c'était un geste...
C'est dramatique. Ouais, d'accord. Mais en dehors de la Talente et Lune d'encre, il n'y a pas beaucoup de traductions de nos jours. Il y en a un petit peu chez Fleuve Noir ou chez Bélial, hein, mais il y a de moins en moins de traductions, parce que la maison maudite, dont on commence par un grand B, se met à faire des français, parce que même leur système ne marche plus. Quoi. Ça,
qui on finit par à... on. Qui finit par on.
Ça finit par on, je crois. Voilà, c'est un système économique qui ne fonctionne plus pour les littératures de genre qui nous concernent. C'est vraiment un problème, hein, évidemment. C'est-à-dire qu'on va s'appauvrir, on va plus connaître ce qui se fait outre-Atlantique ou en Angleterre, quoi, de moins en moins. Mais l'autre jour, je regardais la liste du Nebula, les nominations. On n'en connaît aucun quasiment. C'est dément, quoi. Je suis en train de me remettre à titre personnel à relire de l'américain actuel, mais n'empêche que la liste du Nebula, elle est terrifiante, parce qu'on ne sait pas du tout qui sont tous ces gens.
Bah parce qu'on a vieilli.
Oui, aussi.
Et eux, non.
Donc ça renforce un peu le rôle des revues qui publient.
Effectivement, au niveau des nouvelles, au moins, on peut se permettre. Mais d'ailleurs, on a découvert en fiction Paolo Bassigolaupi,
Ken
Liu récemment. On a publié du Ted Chiang, et puis plein d'autres gens, évidemment. On a un chouchou en plus de Mirabelli, c'est Jeffrey Ford. Malheureusement, alors qu'on a publié des tonnes de Jeffrey Ford, puisqu'on en a publié quasiment une nouvelle par numéro.
Presque.
Quasiment. Je ne me risquerai pas, en tant qu'éditeur, à faire un recueil de Jeffrey. Et pourtant, j'adore, hein, vraiment, c'est mon écrivain favori. Il y a un roman inédit, en français, de Jeffrey Ford. Je ne m'y risquerai pas, parce que le roman n'est pas très facile d'accès. Puis c'est du fantastique, ce qui n'est pas très vendeur. Qu'on s'est dit en France. Et quant à un recueil de nouvelles, j'ai largement de quoi. On pourrait traduire quelques inédits en plus, et puis hop, on ferait un énorme recueil de Jeffrey Ford, ça serait génial. Hein. Oui, mais les libraires n'en voudraient pas parce que c'est des nouvelles, alors oh là là, surtout, on ne va pas le commander. Donc je ne peux pas le faire, le recueil de nouvelles. Un ami libraire m'en parlait la semaine dernière, il vient de découvrir Ford, il adore. Je ne peux pas le faire, c'est pas possible. Pour en vendre trois? Pour l'instant, le marché numérique n'existe pas. Donc non, il faudrait payer l'agent de Jeffrey, donc une fortune relative, c'est-à-dire plus cher qu'un auteur français, en l'occurrence, tout ça pour vendre rien. Pour l'instant, en numérique, on vend presque rien. Il y a quelques bouquins que je vends en numérique, au moteur électrique, mais c'est Jean-Philippe Jaworski, et Jean-Philippe Jaworski.
Qui se vendent déjà ailleurs.
Voilà, qui se vendent déjà sur papier. Qui est déjà notre best-seller en papier. Et on vend beaucoup Westbourg de Cédric Ferrand. Voilà. Et c'est tout. Porcelaine, qui s'est très très bien vendu en papier, on ne l'a pas vendu au numérique. Pour l'instant, le marché numérique, il est à peine balbutiant. Hein. Moi, j'y crois, c'est pour ça que je fais du numérique. Hein. Mais pour l'instant, non, moi, je ne vais pas m'amuser à faire un truc comme un énorme recueil de nouvelles originales. Enfin, non, ce serait de la folie.
Je crois qu'il y a déjà... recueil qui a été publié il y a des années au Bélial. De Jeffrey Ford, il me semble.
Non. Désolé, non. Malheureusement, non.
C'est Jasper.
J'ai lu un chez Nemos, je
crois. Oui, non, mais il y a plusieurs romans qui sont traduits de Jeffrey Ford, bien sûr. Il y a une trilogie chez J'ai lu, et il y a un roman chez De Noël qui a été repris en folio polar, folio noir, La fille dans le verre, et puis Le portrait de Mrs. Sharbuck, je ne sais plus chez quel éditeur il est, c'est un autre roman superbe. Mais mais Ford a été traduit hein, de toute manière, mais il reste un roman qui n'a pas été traduit, et puis toutes les nouvelles,
il y en a beaucoup.
Et il y a beaucoup, beaucoup, maintenant il n'écrit plus de romans, jusqu'à preuve du contraire, parce que même aux États-Unis, il vendait vraiment très mal. Et il écrit par contre une quantité, c'est un très 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 grand nouvelliste. Et il publie régulièrement des recueils aussi.
Et dans l'hypothèse où un tel recueil existerait, republier un recueil qui est épuisé, est-ce qu'il y a une même contrainte financière que la traduction et les négociations avec les agents?
Ah bah oui, de toute façon. De toute manière, il faut payer l'agent. Voilà. Et puis l'autre contrainte, c'est l'attitude des libraires vis-à-vis des nouvelles, à savoir qu'ils ne veulent pas de recueil de nouvelles. Donc, voilà. Je ne trahis pas un secret en disant que ActuSF ne va plus faire de recueil de nouvelles, alors que c'était son activité jusqu'à présent. Il change son fusil d'épaule, il veut faire des novellas et des romans. Parce que les libraires ne veulent plus de recueil de nouvelles.
Maupassant, Marcel Aimé, c'est tout.
Voilà.
Oui, Daniel Boulanger, mais bon, parce que c'est...
Non, c'est très très difficile. Alors si, on fera un recueil de nouvelles de Georges Jurovski, hein, bien entendu, parce que c'est une super grosse vente, et Jeanne Vera, son premier recueil, s'est vendu presque autant que son roman en best-seller, Gagner la guerre. Mais bon, c'est une exception, c'est pas la règle.
Georges Perru, non. Non. Excuse-moi de t'avoir réveillé. Mais je suis coutumier du fait moi-même, donc
non, mais Georges,
là je peux pas.
Georges, il a fait sauter sur ses genoux le jeune Maurice Renaud.
Certainement. D'autres questions, d'autres interventions, d'autres remarques, d'autres ronflements. Oui, j'en tenais au moins un. Eh bien, merci. De votre attention.
Georges Bormann n'a rien dit.
Merci. Il est malin. Si, il va nous dire quelque chose.
Il s'approche de nous quand même.
Oui, non, un truc que j'ai fait. Demander.
Les barges pour avoir, on se